Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous ce soir. Thierry Dagiral, Marie-Ève Malouine, éditorialiste, et Judith Vintraub, journaliste au Figaro Magazine.
Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Merci d'être présente ce soir sur Europe 1. L'islam politique ou le caillou dans la chaussure du nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de la passation de pouvoir, il a dit son intention de lutter contre l'islamisme politique qui attaque la République. Ce sera un combat important pour Emmanuel Macron, qui veut structurer l'islam de France, Judith Vintraub.
C'est un combat extrêmement important, d'autant qu'on attend toujours le grand discours sur la laïcité qu'avait
promis par le président.
au début de son quinquennat, et qu'on n'a toujours pas eu. Alors certes, il a fait des déclarations contre le séparatisme islamique, ouais. C'est déjà un commencement. Et puis, on ne sait pas bien, enfin moi je ne sais pas bien, je n'ai pas bien compris quelle était la position de Gérald Darmanin qui s'était illustré en 2015.
Il y a 4 ans,
c'est ça. Après les attentats, en disant le problème ce n'est pas l'islam, c'est la connerie. Ce que je trouve ennuyeux, parce que s'il ne commence pas par reconnaître que l'islam politique et l'islamisme sont des maladies de l'islam, ça veut dire qu'il n'a pas compris devant quoi on était. Par ailleurs, il avait fait des propositions pour un concordat pour l'islam qui n'était pas bien clair non plus. Alors, il n'est pas pro-voile, hein, il regrette que des femmes emportent, mais il dit c'est pas le premier problème et il faut absolument adapter. Alors il le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'entends. Adapter notre république pour laquelle l'islam est une religion relativement récente, il faut l'adapter à l'islam. Or, c'est embêtant, et c'est d'autant plus embêtant de la part de quelqu'un qui s'est dit hostile à la laïcité punitive, sans définir ce que c'était que la laïcité punitive.
Il faut rappeler que Gérald Darmanin est maire de Tourcoing. Il avait travaillé en effet il y a 4 ans sur le sujet. Il disait la guerre civile couve, les politiques font l'autruche, mais maintenant c'est à lui de jouer. Marie-Ève Malouine.
Oui, je crois quand même qu'il a eu une phrase assez importante à l'Assemblée quand il a dit que l'islamisme politique, l'islam politique, était un ennemi mortel pour la République. Donc il pose quand même certaines affirmations que tout le monde n'a pas eu le courage d'avoir jusqu'à présent sur l'islam politique, qui est un islam radical et qui se revendique destiné à avoir des règles, des normes supérieures à nos valeurs communes, qui sont les règles de la République. À partir de là, les déclarations qu'il a eues avant, il n'était pas en situation de ministre de l'Intérieur. Maintenant, je pense que les propos qui peuvent être interprétés, suggérés, des choses, il a besoin maintenant d'être beaucoup plus clair, puisqu'il est le ministre des cultes. De l'autre côté, je pense qu'il faut faire une différence. Il y a l'islam politique, qui est tout à fait condamnable, parce qu'il n'est pas en adéquation avec nos règles et il veut les supplanter. Et puis il y a l'islam, qui est une religion en France, et autant il faut combattre l'islam politique,
bien sûr,
autant je crois qu'il faut intégrer, faire valoir cette liberté individuelle, qui est le droit d'avoir sa religion à titre individuel et dans la sphère
privée. J'ai l'impression que cette question, pardonnez-moi, de l'islam de France, on en parle depuis lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur.
Bien sûr, parce que...
Et qu'on n'y arrive pas.
Parce que depuis cette époque, et bien avant cette époque, on a un phénomène, alors pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, de séparatisme, qui ne fait que s'aggraver. Moi, je trouve que Gérald Darmanin, depuis qu'il est entré en fonction, bien qu'il y en ait effectivement que l'islam politique était l'ennemi mortel, a pas du tout clarifié sa position, d'autant plus qu'il répondait à la sénatrice du Val-d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignaud, la veille du jour où elle allait dévoiler son rapport qu'on a publié.
Dont on va parler tout à l'heure, bien sûr, et évoquer longuement avec vous.
Dans le Figaro, et où elle dit que à peu près toute la France, sauf la Bretagne, il y a des écosystèmes islamistes qui se sont construits. Et la réponse de Gérald Darmanin, ça a été de l'accuser de tenir des propos caricaturaux. Ça commence mal.
Comment intégrer pleinement l'islam dans la laïcité française? On en parle et on continue à en parler dans un instant avec Marie-Ève Malouine et Judith Vintraub sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Thierry Dagirel, Marie-Ève Malouine, éditorialiste, et Judith Vintraube, journaliste au Figaro Magazine. Et toutes vos réactions en direct au 39-21 ou sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et la question pour le moment, c'est comment intégrer pleinement l'islam dans la laïcité française après les déclarations de Gérald Darmanin. Tout de suite, Sophia nous a contacté au 39-21. Bonsoir Sophia.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, j'habite dans un quartier... comment ? Du 93.
D'accord.
Et j'habite dans un quartier à prédominance musulmane. Mmh. Et je me fais souvent embêter par rapport à ma tenue ou au fait que je boive de l'alcool. Et principalement pendant le ramadan, quand je mange dans la rue. Donc la question est très simple. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de prévoir quelque chose pour protéger les gens comme moi de ce genre d'agression des formes d'agression.
Merci Sophia, merci. Judith Vintraube du Figaro vous répond.
C'est très compliqué et c'est indispensable de le faire. Il faut absolument protéger les non-intégristes de cette montée de l'inscription. Je ne sais pas du tout si l'auditrice qui nous appelle est musulmane ou pas. Peu importe, de toute façon, ça ne change rien au problème. Ceci étant dit, les musulmans non intégristes sont les premières victimes, évidemment, de ces campagnes de pression des intégristes. Donc c'est eux qu'il faut protéger en premier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est évidemment, sur le long terme, une question d'éducation, de rigueur, vis-à-vis de toutes les dérives, islamistes. Mmh. De ce point de vue-là, l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministre de l'Éducation a été un bienfait et une bonne nouvelle, parce que lui... est quand même beaucoup plus attentif, pour ne pas dire pire, que ne l'étaient ses prédécesseurs à la question. Il a monté un conseil d'échange de la laïcité, présidé par Dominique Schnapper, extrêmement vigilant et efficace, et notamment qui a permis de contrebalancer l'influence délétère de l'Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco. Mmh. Dont on se demande si sa vocation n'est pas d'encourager l'islamisme.
Comment on va plus loin maintenant ? Parce que visiblement, ce que vit Sophia, c'est ce que raconte d'ailleurs le rapport sénatorial.
Oui, c'est l'écosystème islamiste certains quartiers.
Comment on répond à cela ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que l'éducation, ça ne change rien. Ça ne fait pas bouger les choses, en tout cas.
Ça finira par changer. Pour ça, je disais, c'est le long terme.
Peut-être qu'il sera trop tard.
Oui, il sera trop tard. Pour le court terme, il faut évidemment réprimer ce genre de comportement, signaler.
Comment ?
Vous savez, je n'ai pas de recette miracle.
Par exemple, dans le rapport sénatorial, on parle de mieux former les élus et fonctionnaires locaux, renforcer le maillage de l'État dans ces quartiers souvent, d'ailleurs, oubliés par la fonction publique. Qu'est-ce qu'il faut faire, Marie-Ève Malouine ?
Je crois qu'il y a des choses à faire, notamment au niveau de la formation des élus.
Ouais.
Et puis, les responsables politiques ont la responsabilité de nommer les choses. On a en France un tabou vis-à-vis de l'islam et on a peur de dire que l'islam politique n'est pas acceptable. Parce que, toujours, il remet en cause...
On, ça dépend qui. Hein.
Oui, non, mais bien sûr. Et Judith
surtout
le dit,
à
gauche. Comme je le dis, et beaucoup à gauche ont eu du mal à le dire au nom du respect des libertés de chacun. Mais ma liberté s'exerce... s'arrête quand elle enfreint la liberté des autres. Et donc, je crois qu'il faut être ferme sur ce débat et aussi donner nos valeurs. On est trop dans la prudence ou dans le tabou, parce que les islamistes politiques en jouent et en disant « mais c'est ma liberté d'être voilée, etc. » Certes, c'est la liberté de chacun, mais les lois de la République s'imposent à tous. Et imposer à des femmes d'être voilées, jamais on ne fera croire dans une république comme la France que c'est un signe d'émancipation. Il faut être clair là-dessus et les responsables politiques doivent être clairs et les élus doivent être formés. On a eu ce débat pour les municipales où certaines listes communautaristes étaient présentées comme une liberté. Non, des listes dont le programme c'est de restreindre les libertés des femmes, des homosexuels, ce n'est pas dans le cadre de la République.
Et pas seulement ça, parce que là vous parlez des listes communautaristes en tant que telles et facilement identifiables. Mais sur certaines listes menées par des Verts, où il y avait des Verts et des éléments de la France insoumise, vous savez, qui est traversée par un clivage très grave, qui a provoqué des déchirements. Le parti de Jean-Luc Mélenchon est Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout au clair sur cette question-là. Il y a des gens qui sont partis d'ailleurs parce qu'ils considéraient qu'il il était hostile aux musulmans. Je pense par exemple à la nouvelle maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, qui est une verte, qui avait sur sa liste une femme voilée et qui en a tiré un argument de campagne.
Pourquoi et ce n'est pas uniquement les partis politiques, parce que souvenez-vous de l'affiche de la FCPE avec une jeune femme très jolie, voilée, et disant « je porte un voile ». Et alors, pour en faire un argument électoral et clientéliste, puisque ça voulait dire « voter FCPE, on tolère le voile à la FCPE », alors que ça n'a rien à voir dans le débat ou la responsabilité des associations de parents d'élèves.
Je reviens à ce rapport sénatorial. Pourquoi cette commission est réservée sur la volonté de créer un islam de France, ce que souhaite faire Emmanuel Macron et donc Gérald Darmanin, son nouveau ministre de l'Intérieur?
D'abord parce qu'il y a un précédent fâcheux, c'est celui de Nicolas Sarkozy.
Qui a voulu mais qui n'a pas pu.
Mmh. Et qui a démontré à son corps défendant que quand la République voulait se mêler de structurer une religion, elle tombait sur quoi? Sur les plus organisés. Or, qui sont les plus organisés en France en ce moment? Ce sont les frères musulmans.
Et ça rejoint le danger du communautarisme. À partir du moment où on va traiter les musulmans comme une communauté dans laquelle on englobe et les intégristes et les musulmans qui pratiquent simplement leur religieux tranquillement chez eux, on amalgame tout le monde et donc on obtient l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Il n'y a pas d'islam de France. Il y a des musulmans en France, et puis comme il y a des catholiques ou des agnostiques. Mais il n'y a pas d'islam de France, il n'y a pas de raison d'avoir un islam de France.
Oui, le danger, je rajoute, avec les frères musulmans, c'est que, contrairement à la plupart des salafistes, je dis la plupart parce que ce n'est pas aussi net que ça, alors bien sûr, on va dire, vous caricaturez, mais la spécificité des frères musulmans, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans le séparatisme. Au contraire, ils veulent infiltrer les institutions de la République pour la changer de l'intérieur.
Ça va être mission impossible pour Gérald Darmanin, pour Emmanuel Macron. Comment on peut intégrer pleinement l'islam dans la laïcité française?
Déjà, en faisant respecter les lois de la République. Ça serait formidable. Moi, je trouve que s'il parvenait à faire ça, il pourrait s'arrêter là avec le sentiment de la mission, du devoir accompli. Il y a une interrogation, d'ailleurs, pour savoir si ce n'est pas Marlène Schiappa.
Ça sera le job de Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté.
Qui
a écrit d'ailleurs un livre sur la laïcité, qui a beaucoup travaillé le dossier.
Oui, qui je trouve, n'est pas ambiguë sur la question. Mmh. Elle est très claire sur la question. Et son féminisme n'a pas d'angle mort.
Ouais.
J'espère qu'elle s'en occupera aussi.
Marie-Ève Malouine, Marlène Schiappa, qui sera donc dont la mission sera celle-ci.
A priori, oui, d'après l'intitulé de son ministère, mais pour l'instant, on n'a pas les décrets d'application qui donnent le champ de compétences de la ministre. Alors, le terme est vague pour l'instant, puisqu'il y a aussi Marc Fesneau qui est chargé de la participation citoyenne. Donc, on va voir où est-ce que ça joue. Et c'est vraiment, les décrets d'application sont très importants.
Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va parler des Républicains. Est-ce qu'ils ont des idées pour la future présidentielle? On en parle dans un instant.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Autour de vous ce soir, Thierry Dagiral, Marie-Ève Malouine, éditorialiste, et Judith Vintraub, journaliste au Figaro Magazine. Toutes vos réactions et effectivement sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et on va parler des Républicains. Mais que font-ils, ces Républicains? Sur la table hier, un programme de 200 pages qui va être envoyé maintenant dans les fédérations avant un grand congrès en novembre prochain. Il y a des idées ou pas? Ils sont prêts ou pas?
À dire qu'il y a des idées, mais on en connaît quelques-unes. Ils les ont déjà exposées. Dire qu'ils sont prêts, pas tout à fait, puisqu'on cherche le candidat pour l'instant.
Déjà, c'est ça. Il faut
tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour incarner, pour porter les idées, c'est difficile de les faire passer. Mais il faut relever quand même que les Républicains, depuis l'arrivée de Christian Jacob, se sont mis au travail. Les militants se reparlent, les responsables se reparlent, se retrouvent. Et c'est déjà un progrès.
Mais on a le sentiment qu'il y a quand même deux lignes. On a la ligne Jacob et puis on a la ligne Pelletier. Et il n'y a pas encore de consensus au sein des Républicains, Judith Vintraub.
Moi, j'ai surtout l'impression qu'en fait, le clivage qui persiste et qu'ils n'ont pas réglé, c'est celui sur souverainisme et libéralisme. Ouais. La droite française n'a jamais brillé par son libéralisme. Bruno Retailleau incarnait plutôt une ligne libérale. Et puis, en fait, depuis plus d'un an, je trouve qu'il a changé et qu'il s'est pas mal rallié au thème souverainiste.
Dans les idées proposées hier, il y a notamment un contre-plan de relance, un ticket carburant pour les salariés, la baisse de TVA sur 1000 produits alimentaires, l'idée d'un bouclier rural, objectif zéro fermeture d'écoles, de bureaux de poste, des contrats spécifiques pour les seniors. Il y a des choses assez intéressantes. Face à Darmanin, dont on parlait il y a un instant, les Républicains promettent un plan de réarmement régalien de 25 milliards sur 5 ans. Voilà, les idées sont sur la table. Il faut maintenant trancher. Il faut maintenant trouver en effet la bonne personne pour les porter.
Oui, et puis trouver, le financement, accessoirement.
Et le financement.
C'est pas rien.
C'est pas inutile.
Alors, là, on retrouve les grands classiques de la droite, ouais. C'est-à-dire retarder l'âge de la retraite progressivement, ouais. Augmenter le temps de travail, etc. etc. Je suis pas sûre que ça suffise complètement. Et puis l'incarnation, c'est un énorme problème. Il y a l'incarnation.
Et le processus.
Et l'espace.
Et
l'espace politique. Ouais. Et là, l'espace politique, pour le moment, j'ai du mal à le voir. Pour être un peu brutal, je dirais qu'un candidat de droite aura une chance si Emmanuel Macron échoue. Sinon, je ne vois pas le chemin.
Ça dépend.
Marie-Ève Malouine.
Ça dépend, puisque là, la droite est quand même en train de construire des propositions qui, c'est vrai, ne font pas un projet. On ne voit pas encore si c'est un projet libéral, gaulliste, social, comme... se voulait plutôt une certaine tendance, ouais. Plus souverainiste. Ouais. Mais il y a des mesures qui vont permettre aux Républicains, à l'Assemblée nationale, d'animer le débat en disant, voilà, on vous propose cette mesure, reprenez-la, c'est la bonne. Et d'être dans l'actualité avec des propositions et pas uniquement dans la critique. Je pense que l'espace, il peut se créer. Et c'est d'ailleurs pour ça que le candidat n'est pas encore déclaré, parce qu'il y a ce travail de créer un espace en attendant de voir ce qui va se passer avec Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron sera en capacité de se représenter, de réussir? Et on voit que là, il mise tout sur une réforme des retraites dont personne ne veut.
Sur une demi-réforme, en plus.
Et encore, on peut critiquer la réforme. Mais sur le principe, remettre la réforme des retraites, du système entier des retraites sur la table, parce qu'il craint d'arriver à la présidentielle et qu'on lui dise « vous n'avez pas été fichu de faire cette réforme ». Quand personne n'en veut, ça va être difficile. Et là, ça ouvrira un espace si effectivement il n'arrive pas à le faire.
Le dernier épisode, c'est pourquoi j'ai dit demi-réforme, parce qu'en fait, il laisse tomber sa réforme systémique. Jean Castex, ses premiers mots sur le sujet, ça a été pour dire « Oula, il n'a pas dit oula, c'est moi qui rajoute oula. C'est une réforme de longue haleine. Comprenez, ça ne se fera pas d'ici la fin du quinquennat. En revanche, l'équilibre financier, la réforme paramétrique, ça, il faut absolument la faire parce que on risque d'avoir, c'est une quasi-certitude d'ailleurs d'après le Conseil d'orientation des retraites, 30 milliards de déficit du système des retraites à la fin de l'année. Mais même cette moitié de réforme, ce quart de réforme, qui était d'ailleurs, c'est assez drôle, la partie qu'Édouard Philippe avait rajoutée à la belle réforme de système universel d'Emmanuel Macron, on aurait pu penser que Macron garderait sa réforme et jetterait celle d'Édouard Philippe. Ben non, il garde celle d'Édouard Philippe. En tout cas, il essaye et aucun syndicat, que ce soit salarié ou patronal, n'en veut.
Je reviens sur le processus un instant parce que la primaire à droite, ça n'a pas laissé de bons souvenirs et le parti est encore divisé sur cette méthode pour trouver le bon candidat.
C'est simple, il y a ceux qui ont intérêt à avoir une primaire, donc ils y sont favorables. Ouais. Ceux qui n'ont pas intérêt, donc ils y sont défavorables. Moi, je pense que la primaire, de toute façon, c'est un artifice et ça ne sert pas le candidat qui sort de la primaire. On l'a vu à chaque fois. Il est affaibli. Qui mieux que ses amis connaissent ses faiblesses? Oui, mais ça fait des candidats qui sont affaiblis. Regardez, François Hollande, il a été affaibli par les critiques qu'il avait reçues pendant la primaire. Ségolène Royal, ça a créé de telles tensions que les éléphants du parti ne l'ont pas suivi. Et François Fillon, ça a fait qu'il était désigné, mais qu'il n'a pas été soutenu, même s'il restait candidat, parce que honnêtement, ce qui l'a handicapé, c'est aussi le fait que toute sa famille n'était pas soudée derrière lui pour dire qu'il subit un complot judiciaire.
Judith Vintraube, on va terminer avec vous. Si les Républicains proposent des mesures, celles dont je viens de parler hier, et qu'on a le sentiment qu'ils mettent un peu les bouchées doubles, c'est parce qu'il y a aussi la peur, Édouard Philippe, libre.
Non, je ne crois pas parce qu'ils le connaissent bien. Et puis rappelez-vous, au moment de son pot de départ, Édouard Philippe a dit « je ferai tout ». Pour favoriser le succès d'Emmanuel Macron. Je le connais.
Vous le sentez
pas
mal
depuis longtemps.
Finalement, il y a un espace à droite, je peux l'incarner.
Je crois même qu'il a une trop haute idée de lui-même pour s'abîmer dans un combat avec Emmanuel Macron. Ouais. C'est au-delà de la loyauté. Mais le problème, le principal problème des Républicains, c'est plutôt que, hormis François Baroin, dont on ne sait toujours pas s'il a envie d'y aller ou pas envie d'y aller, ouais. On verra à l'automne, peut-être, il a quand même deux potentiels candidats forts qui sont en dehors du parti.
Xavier Bertrand, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse.
Et Valérie Pécresse. Ah, oui. Alors comment on fait ?
On peut faire des primaires de la droite ou vers...
Oui,
mais paradoxalement, cette impatience pour que François Baroin se déclare, ça traduit aussi, d'une certaine façon, une envie d'un candidat de droite, puisqu'il y a cette impatience pour savoir qui ça va être.
Merci à vous, mesdames. Bon week-end. Merci d'être venues sur Europe 1 ce soir.